tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.
Le festival Actoral engage sa troisième et dernière semaine de spectacles et de lectures. Noé Soulier, Vincent Thomassé, Mitt Varlop, Lise Santoro et Pierre Godard, Latifa Lahabissi ou encore Alain Farah. Une semaine dense où les écritures ne cessent de se recomposer en des formes parfois inédites. Alain Farah, écrivain, est avec nous dans les studios. Il présentera avec Marie Brassard une mise en espace de Vauban, texte dramatique. Alain Farah est écrivain. Il a notamment publié Le Gala des Incomparables, essai. Pourquoi Bologne, un roman. Matamor numéro 29, un roman. Alain Farah est québécois, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Sauf à préciser que le festival Actoral se doublera tout prochainement d'une édition au Québec. Sauf à préciser aussi qu'Alain Farah est publié, entre autres, chez cette remarquable maison d'édition installée au Québec, le Quartanier. Alain Farah, bonjour.
Bonjour.
Alain Farah, un extrait d'un texte de Nathalie Quintane pour vous. On pense, on craint, quand on prépare un bœuf bourguignon, de ne pas vraiment cuisiner un bœuf bourguignon. Quand on écrit de la poésie, vers, chants, blocs, ou lignes, ou phrases, ou propositions, de ne pas être en train d'en écrire. Quand on fait un film, de ne pas être suffisamment dans le cinéma, ou trop, ce qui revient au même. La posture consistant à vouloir à tout prix se situer dans la nouvelle cuisine, l'anti-poésie ou le non-cinéma, produit des effets identiques puisqu'elle présente l'assignation à un lieu et l'obligation conséquente qu'aurait ce qu'on fait d'y entrer, de ne pas désirer y être comme un impératif. Ce n'est pas un problème de savoir ou de maîtrise technique, mais le désir, soutenu par l'exclusion qui cerne ce dont on s'exclut, de rejoindre le point d'ancrage, l'horizon rêvé, où l'on fait du vrai bœuf bourguignon, de la poésie, du cinéma. Ceux qui sortent à reculons, ou excités du cinéma, de la poésie, les refondent. Mais ceux qui s'y sentent et le revendiquent ne font pas mieux, en les maintenant bien inaliénables, privés. Or, le film, le livre, peut se construire avec ce qui a priori, n'aurait pas même dû y figurer, avec ce qui le dénature, le fausse, le contrefait. Ces éléments hétérogènes ne disparaissent pas, ne sont pas assimilés. Ils se proposent et demeurent lisibles tels quels. Ils font du livre, du film, une chose déplacée, trop maladroite pour entrer dans le cadre général des fictions, pas assez incorrect thématiquement et formellement pour intégrer celui des productions expérimentales. Le film n'est pas insolent, il est incongru. Nathalie Quintane, un extrait de Martin Stank,
oui. Oui, ce très très beau livre qui portait sur un film, d'ailleurs, qu'elle avait fait avec Stéphane Bérard.
Je crois que cet extrait, je l'ai pris parce que vous l'avez vous-même cité dans un entretien, étant pour vous un passage important quant à sans doute les enjeux de la littérature.
Oui, je vous avoue que je ne me souviens plus trop où je l'ai cité, mais je sais que j'aime cette citation parce que, un peu plus loin dans le texte, Gaétane dit « je m'intéresse à ce qui est ». Tout simplement. Et j'apprécie cette idée de voir les choses dans ce rapport un peu immanent aux pratiques et à la performance, à l'acte de l'écriture qu'on dénie parfois ou qu'on oublie parfois.
Et puis, il y a aussi cette manière d'écrire avec des éléments hétérogènes, non? Disons, avec une matière qu'on pourrait considérer comme, d'une certaine manière, impure, quoi.
Ouais, je vois l'écriture comme un bricolage, et c'est certain qu'un écrivain comme Nathalie Quintane, et puis avant elle, des grands ancêtres depuis l'histoire des avant-gardes, ont envisagé le travail de cette manière-là. Et donc oui, c'est vrai, c'est un bœuf bourguignon, mais avec peut-être des tranches de mangue dedans.
Vous avez écrit ce livre, Le Gala des Incomparables. C'est un essai. Quoique, vous avez cherché d'une certaine manière à voir si la mémoire de l'avant-garde est encore opérante aujourd'hui dans la littérature contemporaine.
Oui, ça a été le fruit d'un long travail de plusieurs années, un travail de thèse que j'ai eu la chance de faire à l'École normale à Lyon, sous la direction de Jean-Marie Glaise, donc il y a ça maintenant plusieurs années. Et j'essayais de réfléchir, disons, à partir de ma propre pratique, c'est-à-dire que chez nous, les avant-gardes, on les a, comment je pourrais dire, ghettoisés aux années 70, en disant et en étant très heureux et en célébrant leur mort, là, je veux dire, sans même un peu de gêne. Si bien que moi, sentant que j'avais des connivences avec ce type de pratique, qui vise à changer la littérature et changer le monde en même temps, je me suis demandé bien comment ça se faisait de votre côté de l'Atlantique. Donc, pendant plusieurs années, je me suis intéressé à des pratiques, notamment à celles qui ont pris naissance aussi à Marseille. Je pense à celle de Tarcos, notamment, et puis plus tard à celle de Quintane. À comment, en fait, on pouvait continuer à travailler l'invention, la résistance, mais après, disons, la prétendue mort des avant-gardes.
Oui, c'est-à-dire que la fin des avant-gardes ne veut pas dire la fin de l'invention ou la fin des expérimentations.
Oui, exactement. Mais c'est aussi la fin des avant-gardes, surtout la fin d'une domination d'un certain paradigme qui consiste à dire on va révolutionner la vie, on va révolutionner les lettres, etc. Alors que, bon, on sait à quel point les mouvements réactionnaires là, gagnent du terrain là, depuis la fin des années 70. Donc, de ce point de vue-là, c'est peut-être justement des problèmes de lexique plutôt que des problèmes vraiment d'invention. On n'arrêtera jamais d'inventer, heureusement.
Tout à l'heure, dans l'extrait donc, de Nathalie Quintane, je soulignais ce côté, vous soulignez ce côté bricolage, je parlais de faire de la littérature avec des éléments, disons, impurs. Il y a Bernard Heitzig qui emploie cette formule « sortir la poésie de la poésie ».
Ouais, ouais. C'en est un dans ces grands ancêtres dont je parlais pour lui c'est passé par la sortie du livresque et je trouve ça intéressant que vous le citiez parce que c'est précisément un peu ça qui m'amène, si on veut, à Marseille, parce que vous les avez devant vous. D'ailleurs, j'ai mon petit appareil photo, donc tout à l'heure, je vous trouve tellement beau avec mes trois livres des trois couleurs primaires, je vais vous prendre une photo, ça vous dérange pas. Mais je vous dis ça parce qu'effectivement, Heitzig, très très tôt, a voulu sortir la poésie du livre. Alors que moi, c'est une trajectoire très livresque jusqu'à maintenant, donc tous ces livres-là, depuis 10 ans, j'ai senti que j'avais envie, en fait, de voir qu'est-ce qui se passait quand on sortait de cette vitesse très, très lente du livre pour aller dans le monde. Et puis, c'est ce qu'on est en train de faire, donc, avec Marie.
Ce livre, Le Gala des Incomparables, c'est aussi une étude sur l'écriture d'Olivier Cadio et Nathalie Quintane. Et vous dites que ce sont des écritures alors incomparables. Qu'est-ce que ça veut dire, des écritures incomparables?
Mais c'est la manière dont j'ai essayé en fait de reprendre cette vieille idée hein, de Baudelaire hein, citant le travail de Constantin Guy dans Le pain de la vie moderne, c'est-à-dire la modernité c'est comme se donner des nouveaux yeux hein, c'est comme vous revoir le monde hein, pour la première fois hein. Donc sachant que c'est paradoxal hein, c'est la question de plus être dans la reconnaissance comme disait Chlovsky, c'est-à-dire d'être simplement en train de voir par automatisme des choses mais de les revoir pour la première fois pour nous rappeler qu'est-ce que c'est. Et Baudelaire disait ça il y a déjà bien longtemps qu'une œuvre, disons, si elle est véritablement moderne, elle arrive à justement nous faire voir le monde comme si on ne l'avait jamais vu. Évidemment, donc, de Baudelaire à Cadio, il y a 150 ans, donc j'ai essayé de voir comment, parce que c'est bien ça que je sentais quand j'ai lu les premiers textes d'Olivier Cadio, j'ai eu un sentiment extrêmement fort, une très grande intensité de rencontrer une parole tout à fait en adéquation avec notre monde, sa vitesse, sa sensibilité, et en même temps, quelque chose que j'avais jamais lu du point de vue des lettres. Donc, une vraie orfèvrerie langagière. Donc, moi, c'est un travail dont je suis extrêmement admiratif, celui d'Olivier Cadio. Et donc, ils sont incomparables au sens où j'ai l'impression qu'on n'a jamais lu, en fait, ce qu'ils nous proposent. Et on, si on pousse le raisonnement, et on ne lira plus jamais ça non plus, parce que c'est en pure adéquation avec le présent. Il y a du présent qui est fabriqué.
Il y a ce texte aussi, devenu très célèbre, d'Olivier Cadieux, « L'art poétique », qui a été publié en 1998. Vous pouvez nous en dire quelques mots de ce texte?
Oui, je ne veux pas faire le mec qui corrige et tout, mais c'était 88, en fait.
Ah, pardon,
parce que c'est important, je vous dis pourquoi. Parce que c'est, dans le fond, on a passé le 20e anniversaire de ce texte-là. Et en fait, c'est ça, on en arrive presque à plus de 25 ans. Et je pense que c'est un texte très mal compris, en fait, encore, même si, c'est un texte en même temps très, très simple à lire. Alors, qu'est-ce que c'est l'art poétique d'Olivier Cadieux? C'est un homme qui, pendant plusieurs années, le poète Cadieux à l'époque, essaie donc de travailler une forme dans le cadre qui est celui habituellement de l'écrivain, c'est-à-dire poser à une table avec un café pas trop loin, un crayon, puis une feuille, puis d'essayer de faire sortir une phrase. Et Cadieux, assez vite, se rend compte que s'il travaille exactement de la même manière que les autres, j'ai envie de dire, eh bien, c'est la même phrase qui va sortir que celle que tous les autres font. Alors, je dis une nuit, parce que pour moi, ça doit se passer à la nuit, à la chandelle, tu sais, comme dans un roman de Mary Shelley. Mais un jour, en fait, il décide, en fait, d'aller travailler, d'aller chercher dans ses grammaires les phrases qui l'ont bouleversé. Pierre est malade, Luc va à l'école, toutes ces phrases donc, que la grammaire utilise, et lui les sort de ce contexte-là pour nous ramener à leur dimension presque, j'ai envie de dire, affective, c'est-à-dire Pierre est malade. Pierre est malade, donc sans expliquer quelle est cette maladie, parce que Pierre n'existe pas, je suis désolé de vous l'apprendre, il nous ramène, si on veut, à cette espèce de langue, et puis dans une espèce de pauvreté où les affects sont traversés.
Alain Farage, j'ai une petite surprise pour vous.
Sein im kalten Polar, dann müsste ich nicht mehr schreien, alles wäre so klar. Ich möchte ein Eisbär sein im kalten Polar, dann müsste ich nicht mehr schreien.
Farah, on entend Rodolphe Burger qui travaille avec Olivier Cadieux dans un album qui s'intitulait Psychopharmaca. Et le morceau s'appelle Ezibar.
Ouais.
Nathalie Quintane aussi chante, ouais, parfois.
Ouais.
Ça aussi, c'est très récent, non ? Ce chemin vers le chant. Je pense aussi à Christophe Yat, qui a fait tout un travail aussi avec la musique, ou Anne-Jem Chaton, qui va aussi... les poètes se portant vers la scène du rock, de la chanson.
Ouais. Ben, c'est-à-dire la direction des trajectoires est différente, dépendamment de chacun. Je pense que Fiat ou Chaton sont aussi des artistes sonores. Je pense... évidemment, j'ai été ému tout à l'heure parce qu'à Montevideo, il y a des projections du travail de mon ami Thomas Bréchet qu'on a perdu alors qu'il avait à peine 30 ans et puis qui était un artiste sonore, mais vraiment de génie. Et puis, il y a un bel hommage que Actoral lui rend cette année. Et donc, je pense que dans le cas d'artistes sonores comme Chaton ou Fiat, dont peut-être qu'ils sont là depuis le début, c'est-à-dire avec leur guitare électrique. Cadio Quintane, c'est autre chose. Et puis, je pense que ça passe par ce désir qui est... pas celui de tous les écrivains, hein, et puis vous parliez d'impureté plus tôt dans l'entretien, donc il y a certains, c'est clair, qui doivent voir ça, là, disons, avec un certain dégoût, là, qu'on travaille à contaminer un peu les formes, mais pour moi, c'est-à-dire, ça a à voir avec le fait que l'expérience de la littérature, elle n'est pas cantonnée au livre, là.
Alain Farah, le 9 et le 10 octobre, il y aura donc cette mise en espace du texte Vauban, avec donc Marie Brassard, qui sera lu, je crois, par Marie Brassard.
Oui,
hein.
Oui.
Ce texte, vous en avez un extrait sous les yeux. Ce que je vous propose, c'est qu'on en entende un extrait, puis ensuite on discute.
Mais en fait, c'est drôle parce que je vais pas vous en lire un extrait parce que je lis pas aussi bien que Marie, et puis il va y avoir aussi un petit garçon sur scène avec elle. Vous allez comprendre pourquoi. Ce que je vais vous lire, c'est la lettre que je lui ai écrit au moment où on a commencé à travailler ensemble, puisque cette rencontre, elle est permise par Actoral. Donc, elle a été faite à l'occasion de ce festival-là. Et donc, le texte dit d'autres choses, mais j'avais senti le besoin de faire cette petite lettre à Marie pour lui expliquer quel était mon projet. Alors, c'est une lettre à Marie Brassard. Ceci est l'histoire d'un aveuglement. Un père et un fils vivent ensemble dans un petit appartement. Le père, architecte de type particulier, élabore des structures qui restreignent le désordre. Le fils, enfant fragile, souffre d'une maladie rare. Des migraines génèrent des taches qui oblitèrent en partie son champ de vision. Le père et le fils font ce qu'ils peuvent pour survivre. Un jour, le père se rend au travail. Et pour une raison qui apparaîtra en temps et lieu, quelque chose tourne mal. Prisonnier d'une structure dont il est lui-même l'architecte, il se bute aux impasses qu'il conçoit d'habitude pour les autres. Chacun gagne sa vie comme il peut, et ma pièce a la forme itérative de celui qui cherche à se sortir d'un labyrinthe. Un mot sur leur petit appartement. Je ne peux l'imaginer autrement que celui où j'ai moi-même habité avec mon père, un 3 pièces dans une tour à logement, comme il y en a des dizaines qui longent l'autoroute 15 dans le nord-ouest de Montréal. Un mot sur le père. Il est architecte, mais le mien est ingénieur. Un mot sur le fils. Racontant son histoire, c'est la mienne que j'écris. Le père s'appelle le père, le fils s'appelle Vauban. Au moment où tout paraît perdu, Vauban, grâce au motif qu'il perçoit à travers les taches brillantes de ses yeux, forme où se succèdent lignes brisées et parcelles de lumière, donne à ce conte la fin heureuse que l'on n'attendait plus. J'ai essayé, par empathie pour les gens qui verront notre pièce, de construire une histoire claire, mais faisant cela, je manquais d'empathie pour Vauban et son père. Autant vous en avertir tout de suite. J'écris pour ceux qui n'existent pas.
Merci Alain Farah. Peut-être j'aimerais qu'on commence par cette phrase ouverture, l'histoire d'un aveuglement.
Oui.
Et... Je crois savoir que pour écrire, vous avez besoin d'être dans un noir total, non?
Ouais, ben, c'est-à-dire, ben, il me faut une petite chandelle aussi, comme pour Olivier. Mais en fait, c'est très drôle parce que ce projet-là, ça fait longtemps que je l'ai en tête. C'est-à-dire, c'est un projet qui, comme tout ce que je fais, part d'expériences autobiographiques. Et puis, depuis que je suis très jeune, je fais l'expérience de ce qu'on appelle, donc c'est un drôle de mot, c'est le mot scotum, en fait, qui n'est pas scrotum, hein, donc je le précise. Mais le scotum, c'est une forme, donc c'est un c'est un problème de vision qui apparaît comme ça une fois de temps en temps. Et c'est un aura lumineux qui opacifie complètement, complètement la vue. Et cet aura-là, il prend certaines formes. Et donc, du point de vue de la médecine, on a donc fait une typologie des types de scotomes qui étaient produits. Et il y a un certain type de scotomes qu'on dit en forme de fortification de Vauban. Alors moi, ça fait très longtemps que je m'intéresse à cette maladie-là. Et tout d'un coup, je m'étais dit, puis j'en parle dans les livres précédents, qu'un jour, je vais travailler sur cette question-là des fortifications de Vauban. Je m'étais dit que j'en ferais justement un petit texte très court, parce que mon texte est très court, où je revisite en fait le mythe du labyrinthe. Et oui, allez-y.
La phrase, le texte, la lettre que vous avez lue se termine par « J'écris pour ceux qui n'existent pas ».
Ouais.
Comment l'entendre? Que ceux qui liront existeront par la lecture?
Mais en fait, c'est la question aussi du compromis auquel on est appelé entre nos désirs d'écriture puis de rencontrer une certaine intensité et la confrontation à la réalité de la lecture. Et très souvent, parce que justement, les gens qui parfois s'intéressent à mon travail relèvent son caractère, exigeant. Là, je le dis, c'est les autres qui le disent, c'est pas moi. Moi, je trouve pas que c'est exigeant. Au contraire, j'invite tout le monde à se rendre en librairie et à voir comment c'est juste du fun. Mais l'idée, c'est que j'aurais aimé, parce qu'en plus, c'est quand même faire du théâtre, puis le théâtre, pour beaucoup de gens, c'est Feydeau, puis c'est des vaudevilles. Puis moi, j'aimerais ça en écrire des vaudevilles. Mais si j'écris des vaudevilles, je fais pas attention à mes personnages. Mes personnages, ils me demandent d'écrire autre chose. Alors je les écoute, et puis c'est pour ça que j'écris pour eux.
Mais ces personnages, c'est aussi un peu vous, Alain Farah, puisqu'il y a toujours une dynamique comme ça, un peu autobiographique, donc il y a quelque chose de l'autofiction. J'ai cru comprendre que vous l'empruntez, ou disons que cette dynamique d'autofiction, vous l'avez surtout rencontrée chez Duras.
Oui, c'est vrai. C'est cet auteur, moi, qui m'a vraiment bouleversé par rapport à son jeu sur le statut, c'est-à-dire qui parle, surtout dans les livres plus tardifs, puis évidemment L'Amant, qui est cette espèce de monument. Donc, qui parle là? C'est qui la femme qui a le visage fracassé, qui rencontre le jeune homme au début de L'Amant, etc. Donc, ça m'intéresse ce travail-là parce que Duras, en même temps, malgré ce qu'on a pu en dire, comment on a pu vendre le nombre d'exemplaires qu'on a pu vendre de L'Amant, ça me surprend toujours parce que c'est un livre très, très exigeant aussi. Et puis, Duras dit des choses très, très contradictoires là-dedans. Donc, la question de la vérité, pour moi, elle importe peu. Quand vous lisez L'Amant de Duras, vous voyez qu'elle dit, page 35, cet événement s'est passé 2 ans avant la vente de la concession. Page 36, cet événement s'est passé 3 ans après la vente de la concession. Il y a rien qui tient du point de vue d'une espèce de cohérence biographique. Donc, moi aussi, j'écris pour ceux qui n'existent pas, mais je suis le premier à ne pas exister.
Alain Farah, ce texte donc sera mis en espace le 9 et le 10 octobre au Merlan, scène nationale donc à Marseille. C'est à partir de 19h. Dernière question, Alain Farah, je sais que vous appréciez particulièrement Rancière, et Rancière a cette expression que l'expression politique de la littérature implique que la littérature fait de la politique en tant que littérature.
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ah, ça aussi, c'est un très, très beau texte dans Politique de la littérature. C'est l'idée qu'on ne peut pas être là avec un programme. C'est-à-dire, on ne peut pas être là. C'est-à-dire, bon, j'ai regardé Ruquier samedi soir dans ma chambre d'hôtel. J'ai pris deux pilules après pour être capable de m'endormir. Les propos, anti-homosexuels de Zemmour m'ont donné envie de vomir, etc. Mais moi, je ne peux pas répondre à ça en faisant une lettre dans les journaux, vous comprenez, puis en fondant un parti politique. Il faut que cette haine-là, cette haine des gens, eh bien, on y résiste par quoi? Par de la joie du texte, j'ai envie de dire. Donc, si moi, je fais de la politique, c'est par la forme que je propose, et une forme qui résiste au monde, comme disait Adorno, qui menace pourtant comme un pistolet appuyé contre la poitrine, je pense que c'est ça que disait le philosophe. Donc autonomie, engagement, comment articuler les deux, je pense que c'est une des grandes questions du contemporain.
Merci beaucoup, Alain Farah.
Merci à vous.
Chronique, émission spéciale, sélection musicale, radiogrenouille.com.